Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'urgence climatique se rappelle à nous ce matin en ce dernier jour de campagne présidentielle. L'Europe a connu en 2021 l'été le plus chaud de son histoire selon les données révélées par l'observatoire Copernicus. Inondations, incendies, canicules, ce que le vieux continent a vécu l'an dernier pourrait bien devenir la règle. Autre urgence aujourd'hui pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, convaincre les derniers indécis à 48 heures du second tour. Ultime déplacement dans le Lot et la Somme, alors que des catholiques s'interrogent sur le silence de leurs évêques. Aucune consigne de vote pour dimanche. Au sommaire aussi, peut-être la fin du mystère dans l'affaire Maddy. Un suspect est mis en examen en Allemagne. Et puis, basketteur et star de TikTok, rencontre avec l'un des hommes les plus grands de France.
Et à 7h45, Thomas Piketty, Dominique Seux débattront ce matin sur deux clivages majeurs entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, l'Europe et l'écologie. C'est un triste record, Alexis, dévoilé en ce jour de la Terre.
Il y avait déjà l'alerte du GIEC le mois dernier. Il ne reste plus que 3 ans pour s'attaquer au réchauffement climatique. Après, il sera trop tard. Eh bien, ce matin, on apprend que l'Europe a connu en 2021 son été le plus chaud jamais enregistré, avec une anomalie d'un degré par rapport à la moyenne. C'est Copernicus, le service européen d'observation de la planète, qui publie ses dernières données. Elle confirme que le réchauffement et les dérèglements qu'il engendre sont déjà une réalité très concrète, y compris chez nous, Sandy Dauphin.
Des inondations exceptionnelles en Allemagne et en Belgique en juillet, une canicule en région méditerranéenne en août, avec un record de 48,8 degrés en Sicile, ou encore des feux de forêt géants en Turquie, Grèce et Italie. L'année 2021 est caractéristique du climat actuel, explique Vincent Henri Peuc, directeur du service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus.
Les 7 années les plus chaudes depuis qu'on en a les mesures météorologiques, c'est-à-dire depuis 150 ans environ, ce sont les 7 dernières années. Donc l'année 2021 se situe en termes de température globale moyenne entre le 5e et le 7e rang sur 150. Donc c'est quand même très très près du sommet. Et le fait que toutes les années les plus chaudes sont les dernières années, ça montre bien l'accélération de l'augmentation des températures sur les dernières décennies et sur les dernières années.
Le moteur derrière le changement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère avec des concentrations records.
Les concentrations continuent d'augmenter année après année. Pour le CO2, la Terre n'a pas connu des concentrations similaires depuis plus de 2 ou 3 millions d'années.
En 2020, année des confinements Covid, les émissions mondiales de CO2 avaient baissé d'environ 5,4%. Aujourd'hui, elles sont revenues à peu près au niveau de 2019. D'avant pandémie.
Et malgré ces alertes climatiques, beaucoup regrettent à gauche, notamment que l'écologie n'ait pas eu toute sa place dans la campagne présidentielle qui s'achève. Dernier jour pour convaincre les indécis. Après les quartiers populaires hier à Saint-Denis, Emmanuel Macron conclura cet entre-deux-tours à Figeac, dans le Lot, pour laisser une dernière image de proximité, Maxence Lambrecq.
Des banlieues à la ruralité, le président de tous les Français. Voici le dernier message qu'il souhaite faire passer, non pas avec des mots. Les gens ont eu leur dose avec le débat, glisse un ministre, mais avec des images. Figeac, cité historiquement socialiste et industrielle, au cœur du Lot, territoire enclavé, dans une région, l'Occitanie, dirigée par Carole Delga, l'une des rares élues du PS opposée à une négociation avec Jean-Luc Mélenchon. Elle pourrait finir à Matignon, aux un député En Marche. Carole Delga n'a pas prévu cet après-midi de venir saluer Emmanuel Macron, qui prendra la parole sur la place centrale à 15h avant au moins 2 heures de bain de foule. Il aura ainsi, pendant cette campagne en pointillé, réalisé 10 déplacements et 2 meetings. 9 des 13 régions de métropole l'ont accueilli. Il aurait dû cette semaine se rendre à Villeurbanne pour cocher au moins la case Auvergne-Rhône-Alpes, mais mardi, une audioconférence sur l'Ukraine l'en a empêché. Les frustrations dans son équipe de campagne sont nombreuses. Ce soir, Emmanuel Macron rangera définitivement sa casquette de candidat.
Emmanuel Macron qui, avant de partir pour le Sud-Ouest, est donc l'invité d'Inter ce matin à partir de 8h20. Marine Le Pen, elle reste dans les Hauts-de-France. Ultime déplacement à Abbeville, dans la Somme. Lors de son dernier meeting hier soir à Arras, elle a durci le ton contre son adversaire, l'accusant de ne pas aimer les Français. Lors du débat de mercredi soir, on a vu, je cite, un Emmanuel Macron condescendant et d'une arrogance sans limite.
Il est 7h35, à 2 jours de ce second tour, Alexis. Malaise chez les catholiques.
La conférence des évêques de France n'a pas donné de consigne de vote, contrairement aux institutions juives, musulmanes et protestantes qui appellent à faire barrage à l'extrême droite dimanche. Alors depuis quelques jours, des fidèles reprochent à l'épiscopat d'être trop frileux. Ils demandent à la hiérarchie de l'Église de prendre clairement parti contre Marine Le Pen. Delphine Evenou.
Ne pas s'aliéner une partie des catholiques, faire profil bas aussi après le scandale des abus sexuels. La pudeur des évêques, le père Christian Delorme du diocèse de Lyon l'explique, mais s'en insurge, il exhorte sa hiérarchie à prendre ses responsabilités.
Dans le modèle catholique, les évêques, ils sont les pasteurs et ils sont les gardiens de la doctrine. Les évêques ont cette mission de rappeler quelle est la vérité du message chrétien, d'en être les gardiens. Et donc, ils ont cette mission aussi de dire, ben là, on s'écarte du christianisme.
Le prêtre a également apposé sa signature en bas d'une lettre ouverte aux catholiques tentés par Marine Le Pen, appuyée par de simples fidèles comme Gérard Testard, responsable associatif.
Je crois qu'il faut prendre la parole, oui c'est clair. La montée de l'extrême droite et ce qu'est l'extrême droite au regard de l'évangile pose problème. Malgré la difficulté, les évêques gagneraient, je crois, à prendre une position parce que c'est une manière de faire vivre l'évangile.
Pour ne pas laisser le champ libre, le CCFD Terre Solidaire a de son côté lancé un appel au sursaut citoyen. Sylvie Bucarit Pontual, sa présidente.
Les chrétiens peuvent avoir, je crois, des convictions politiques au sens de service du bien commun et on voulait que ça puisse s'exprimer aussi dans le débat public.
Le texte a été signé entre autres par les Scouts de France, le Secours catholique, mais aussi par l'évêque d'Agen du mouvement Pax Christi, l'un des très rares à sortir prudemment de la réserve épiscopale.
Delphine Evenou, une présidentielle française suivie de très près à l'étranger. Ce matin, c'est le Brésilien Lula qui appelle au vote Macron après avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Hier, les dirigeants allemands, espagnols et portugais ont aussi signé une tribune favorable au président sortant. Marine Le Pen, elle, peut compter sur le soutien de Viktor Orban, le premier ministre hongrois, qui ne tarit pas d'éloges sur la candidate RN, Louise Baudet.
C'est une vidéo de soutien diffusée début février en meeting à Reims, puis sur les réseaux sociaux. En quelques mots, Viktor Orban y résume tout ce qu'il a de commun avec Marine Le Pen.
L'immigration, les attaques contre nos familles et le rêve fébrile d'une Europe fédérale nous menace tous. Vous êtes nos compagnons d'armes. Madame Le Pen est un grand guerrier expérimenté. Je lui souhaite bonne chance dans son combat.
Je prends l'engagement devant vous si je suis élu président.
Le 26 octobre dernier, Marine Le Pen est à Budapest.
Afin de vous apporter le soutien de la France et de son peuple pour réorienter une Union européenne dont la brutalité idéologique attente à l'idée même de souveraineté.
Pour une Europe des nations libres et souveraines, contre la submersion migratoire, pour la protection des familles, matrice idéologique commune et convergence d'intérêts. La candidate RN reçoit l'onction d'un Premier ministre en exercice et 10,7 millions pour financer sa campagne, préaccordée par la banque d'un ami d'enfance d'Orban. De son côté, le leader hongrois a impérativement besoin d'une alliée. Bruxelles menace de lui couper les crédits et la guerre en Ukraine a creusé le fossé avec l'ex-meilleur ami polonais. Une victoire de Marine Le Pen dimanche sortirait Orban de son isolement et redynamiserait son rêve d'une coalition des droites extrêmes européennes.
L'Ukraine, où deux mois après le début de la guerre, Volodymyr Zelensky redouble l'organisation de faux référendums d'autodétermination dans les régions contrôlées par les Russes, notamment la ville de Kherson dans le sud. Alors pour l'empêcher, le président ukrainien demande aux habitants concernés de ne pas fournir leurs données personnelles aux forces russes. L'affaire Maddy est-elle en passe d'être élucidée? 15 ans après la disparition de cette fillette britannique lors de vacances familiales au Portugal, un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Alexis.
Vous êtes en direct de Berlin pour Inter. Alors l'identité de cet homme n'est pas officiellement dévoilée encore, mais on sait que depuis 2020, les autorités allemandes soupçonnent un pédophile multirécidiviste.
Oui, ça fait déjà 15 ans que ce visage de cette petite fille blonde aux grands yeux clairs est obsédant. Il a fait le tour du monde depuis sa disparition le 3 mai 2007, quand ses parents ont montré à la télévision une photo de Maddy et supplié les éventuels ravisseurs de la libérer, avant d'être eux-mêmes très vite considérés dans cette affaire comme des suspects, d'ailleurs les seuls vraiment mis en cause, jusqu'à il y a deux ans, 2020, quand la justice allemande annonce au terme d'une enquête sa certitude que la fillette est morte et qu'il existe un suspect, un Allemand qui vivait à l'époque dans le sud du Portugal et depuis incarcéré dans son pays, condamné pour un viol commis un peu avant la disparition de Maddy dans la même région. Selon le quotidien Bild, il ne fait aucun doute qu'on parle bien aujourd'hui du même homme, 45 ans pédophile multirécidiviste, considéré désormais aussi comme un suspect par le Portugal, mais où parce que les meurtres y sont prescrits au bout de 15 ans, les autorités, à quelques jours près, veulent éviter l'impunité et se tournent vers leurs homologues ici, outre-Rhin, là où il n'y a pas une telle prescription pour espérer sa condamnation.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Inter à Berlin. Un ancien chef d'État menotté dans un avion de l'agence antidrogue américaine. La scène n'est pas commune. C'est ce qui est arrivé cette nuit à l'ex-président du Honduras, Juan Orlando Hernández, extradé vers les États-Unis. 3 mois seulement après avoir quitté le pouvoir, il doit comparaître à New York pour sa participation à un gigantesque trafic de cocaïne. Après 150 jours de mobilisation, les ex-salariés de la SAM, ce sous-traitant de Renault, vont lever lundi l'occupation de leur usine dans l'Aveyron. Ils l'ont voté à l'unanimité hier soir en AG, après des garanties apportées par les collectivités locales pour maintenir les machines sur place jusqu'à une éventuelle reprise. C'est bien parce qu'ils craignaient la vente de cet outil de travail que les ex-SAM restaient sur le site.
Il est 7h41 et on fait connaissance ce matin avec un géant du basket français.
Géant au sens littéral du terme, puisqu'il mesure 2 m22, ce qui en fait le joueur le plus grand du championnat. Vincent Pourchaud évolue en Pro B à Tours. Et entre deux matchs, il est aussi une star sur les réseaux sociaux. 1,5 million d'abonnés sur TikTok. Il met en scène avec humour les difficultés quotidiennes que lui pose son gabarit hors norme, Nicolas Perronnet.
Depuis 3 mois, Martin, 22 ans, s'est lancé dans une aventure assez folle. Tout donné pour intégrer le para-aviron français avant Paris 2024.
En natation, généralement, je m'entraîne 3 fois par semaine, le matin. Et en aviron, là, j'essaie de faire ça à peu près tous les jours. Donc, ça peut être de l'ergomètre, c'est l'aviron indoor sur un rameur. Ça peut être du bateau. Et il y a aussi beaucoup de muscu.
Avant son accident de ski, il y a 3
alors,
ans.
Alors, ce n'est pas le bon reportage qui a été diffusé. Ce n'est pas le portrait de ce basketteur Vincent Pourchaud qui évolue en Pro B, qui mesure 2,22 m. Ben, on l'entendra un peu plus tard, ce portrait. Puis, Nicolas, quand l'un des plus célèbres retraités de la boxe perd ses nerfs dans un avion, Mike Tyson s'en est violemment pris à un passager qui semblait l'importuner avant un vol entre San Francisco et la Floride. La vidéo fait depuis le tour des réseaux sociaux aux États-Unis. On y voit l'ancien champion donner des coups de poing à un homme situé juste derrière son siège. Il aurait été évidemment débarqué dans la foulée, Mike Tyson.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.